Bonjour à tous. Avant de démarrer cet épisode de No Pay No Play qui va être une étude de cas sur un annonceur lead gen, j'aimerais juste vous demander quelque chose. Si l'épisode ou du moins le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous mettre d'ailleurs petite note sur Apple Podcasts, Spotify, etc., etc. Là, je mentionne aussi la chaîne YouTube parce que nous sommes sur YouTube. Ça nous aide évidemment à être mieux référencés, du moins sur les différentes plateformes. Et puis ça nous montre aussi que le contenu qu'on vous propose vous plaît. Voilà. Petite intro terminée. On passe tout de suite à l'épisode.
The number one deal is Facebook ads. They are underpriced.
Senator, we run ads.
Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, le podcast qui traite des cas entre 0 et 1000 dollars ou 1000 euros de budget par jour sur Facebook Ads. Il est produit par la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je suis content parce que je reçois notamment un membre de la J7 Academy, à savoir Benjamin Durand, CEO de l'agence Social Desk. Comment ça va, Benjamin?
Eh ben, ça va très bien. Merci pour l'invitation.
Bah écoute, ça, c'est un plaisir, sachant que toi, ça doit faire la 3e ou 4e fois que tu passes sur les réseaux de soit Social Scaling, soit No Pay, ouais. No Play. Donc, tu commences un peu à être un invité.
Un habitué.
Ouais.
Ma carte de membre bientôt.
Bah écoute, tant que tu arrives avec des bonnes études de cas, moi, j'ai aucun problème avec ça.
J'espère.
On fait évidemment passer. Donc, comme je le mentionnais un petit peu dans l'introduction, toi, tu es venu nous parler d'un annonceur qui était un lead gen. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cet annonceur avant qu'on démarre sur Facebook Ads?
Oui, bien sûr. Pour mettre un petit peu de contexte, mon client, c'est un solopreneur qui propose en fait une formation pour se lancer en tant que freelance. Donc, il va vraiment avoir des personnes qui débutent. Et il va avoir plusieurs offres. La première, c'est plutôt un small ticket aux alentours de 300 euros. Qui là consiste plutôt à un produit qui va s'acheter en 100% en autonomie, ce qui va être un kit de démarrage pour être le bon freelance pour commencer. Et du coup, ça va être un contenu qui va être porté plutôt sur quel type de business model, quel type de structure d'entreprise il faut choisir. Donc ça, c'est le small ticket. Et c'est essentiellement une offre pour en fait rentrer dans le système de mon client. Après, il a le high ticket où ça va être produit plutôt à 2000 euros. Et cette fois-ci, ça va être un accompagnement sur plusieurs semaines afin de, cette fois-ci, enfin, de vivre de sa passion et de trouver ses premiers clients en tant que freelance. Ouais. Donc ça, je vous donne un peu le contexte de ce client-là, quoi.
Ouais, bien sûr. Donc, tu t'adresses, t'es encore en B2C malgré le fait que tu veux transformer tes clients en business, entre guillemets, en freelance. Tu t'adresses en B2C. Donc, est-ce qu'il y a une partie CPF ou pas du tout?
Non, il n'y a pas de partie CPF ici. Donc, on est vraiment plutôt sur public, on va dire large, parce que finalement, freelance, ça peut être une personne qui est salariée, qui peut-être a envie de quitter son job et partir de ses propres ailes. Ça peut être quelqu'un qui est déjà freelance et qui finalement n'arrive pas à décoller ou tourne en rond, un petit peu perdu, a besoin d'un accompagnement. Donc ça, c'est finalement assez large comme persona.
D'accord. Donc juste aussi pour les personnes qui nous écoutent depuis le Canada, le CPF, c'est une subvention, pour faire très simple, c'est une subvention de l'État pour obtenir une certaine formation. Donc forcément, ça aide à la conversion si votre formation est éligible au CPF. Voilà, fin de la parenthèse. Ok, donc t'es sur un infopreneur, il a deux offres, une offre donc pour rentrer dans l'écosystème et une deuxième offre là où il y aura beaucoup plus de marge pour lui et il va faire plus de volume de chiffre d'affaires peut-être.
Maintenant
dans l'exécution, et puis je te pose aussi la question en parallèle, c'est quoi son exécution sur Facebook Ads? Qu'est-ce qu'il fait? Et est-ce que tu peux nous parler un peu des tunnels de vente qui sont associés à ces deux offres?
Oui, bien sûr. Bah en fait, jusqu'à présent, il avait essentiellement des campagnes sur Facebook Ads qui était au cœur, on va dire, de la stratégie d'acquisition. Il y avait plutôt en fait des lead magnets. Donc typiquement, on avait un tunnel qui était assez simple où on avait une ad, on clique sur l'ad, on arrive sur une page d'atterrissage et là, le lead magnet pouvait être en fait un calculateur pour calculer en fait son business model ou ça pouvait être un contenu qui était délivré à haute valeur ajoutée. Donc on avait, enfin en tout cas, quand je dis on, c'est le client avait plusieurs lead magnets qu'il a A/B testé. Ce qui était intéressant, c'est que dans l'analyse finalement du compte avant de lancer notre propre opération, on a pu voir quand même qu'il y avait des lead magnets qui étaient plus intéressants d'un point de vue RPL.
Bien vu.
Je sais qu'on en parle un peu plus maintenant du RPL, mais finalement, si on regarde le coût par lead, ils pouvaient être à peu près tous similaires, mais ils dégageaient pas le même revenu à la fin. Donc lead magnet, principalement du fil rouge du coup sur les campagnes Facebook Ads, et il y avait aussi des campagnes plutôt ponctuelles. Quand je dis ponctuelles, c'est peut-être une à deux fois par mois, des campagnes pour promouvoir un webinar sur une thématique donnée de freelance, mais avec un tunnel très simple encore, c'est-à-dire voilà, je clique sur la pub, je m'inscris au webinar qui est telle date. Le jour J, le client faisait le webinar et vendait à la fin du webinar son offre.
La première offre, l'offre à 300 euros.
L'offre à 300. En fait, l'objectif, c'était toujours d'essayer de pousser cette offre à 2000 euros, mais finalement, cette offre était encore trop haute pour une audience qui venait juste d'un webinar. Donc, il fallait encore être réchauffé finalement pour arriver au high ticket. Donc, il tourne en rond dans le sens où il n'arrive que à vendre son small ticket avec ses opérations, que ça soit via des lead magnets ou via ses webinars. Il n'arrive pas directement à vendre son high ticket, ce qui pose un problème. Et du coup, c'est pour ça qu'on est arrivé pour tester autre chose, quoi.
Et avant de rentrer justement dans ta stratégie, il y a un point qui est intéressant qu'on a un petit peu mentionné d'ailleurs sur notre autre podcast Social Scaling. Il fait des campagnes de manière éphémère, peut-être tu m'as dit tous les mois ou tous les deux mois sur des webinaires ou sur des contenus qui sont très contextuels. Et là, du coup, ma question est, c'est-à-dire par exemple pour la nouvelle année, il va faire un webinaire sur le fait de lancer son activité à la nouvelle année, le fait que ça soit par exemple les vacances d'été, il va faire quelque chose là-dessus, c'est-à-dire vraiment par rapport au calendrier, il fait quelque chose en fonction de ça, ou c'est rien à voir, c'est contextuel par rapport à pas du tout le calendrier mais autre chose?
Alors c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'on va avoir des grandes thématiques sur l'année qu'on veut aborder pour les freelance, mais qui vont être contextualisés par la période de l'année. Comme tu viens de le dire, si on est en début d'année, janvier, on va jouer, on va surfer là-dessus pour dire, prenez un nouveau départ pour l'année, les bons réflexes pour se lancer en freelance. Voilà, on va essayer de jouer là-dessus pour mettre plus de contexte et essayer d'avoir plus de performance finalement sur les personnes qui vont rejoindre le webinar, quoi. Donc, il y a les deux, on liste toutes les thématiques qu'on souhaite aborder. Pour pas que ça soit non plus les mêmes à chaque fois, parce qu'on pourrait faire les mêmes webinars tous les mois ou à chaque séance parce que on a un webinar qui est bien rodé, mais potentiellement il y a des personnes qui vont revenir plusieurs fois sur le webinar. Donc là, on essaie vraiment d'avoir des thématiques différentes. Oui, donc pour répondre à ta question.
OK, écoute, c'est parfait. Et du coup, toi, cet infopreneur fait appel à ton agence, quel est l'objectif qu'il cherche à accomplir et qu'est-ce que toi tu observes avec une première veille, un premier audit de son compte?
En fait, après un premier audit, on voit que les CPL étaient plutôt élevés pour le business du client. Typiquement, il y avait des lead magnets qui avaient des CPL à 14 euros, ce qui est plutôt élevé en fait sur ce type de marché par rapport à ce que nous on peut voir habituellement. Alors, à la limite, d'avoir un coût par lead à 14 euros, pourquoi pas? Mais disons que le RPL qui était derrière n'était pas forcément hyper intéressant. Typiquement, sur les webinars, on arrivait à baisser le CPL comparé au lead magnet. Donc, on avait plutôt des CPL à 6 euros sur le webinar. Quand je dis « hein, c'est plutôt le client ce qu'il faisait avant.
D'accord.
Encore, à 6 euros. Et il avait un revenu par lead, un RPL de 8 euros. Donc, ça restait intéressant dans le sens où il perdait pas d'argent, on va dire, sur ses opérations. Mais en tout cas, c'était pas suffisant pour aller chercher de la croissance et à générer du chiffre d'affaires. Fallait vraiment qu'on arrive à débloquer la situation pour aller chercher un ticket plus gros, quoi.
Il suffisait qu'il y ait quelques ventes en moins lors d'un mois et tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué, en fait. Il était un peu sur le fil rouge.
Un peu sur le fil rouge et surtout que, pas assez de volume. C'est-à-dire que dès qu'on voulait, je parle plutôt de volume en chiffre d'affaires, là, quand on a des small tickets à 300 euros, si on a des objectifs de croissance assez forts, va falloir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume en small ticket pour que ça soit rentable. Donc, il fallait vraiment notre mission, c'était vraiment d'arriver pour pousser le high ticket. C'était l'objectif.
Okay. Là, c'est d'accord. Donc, c'est C'est plus de pousser l'offre à 300 euros, mais vraiment l'offre à plus de 2000 euros, c'est ça? Mais est-ce qu'il y avait des... Bon, après, tu vas nous expliquer toute ton exécution, mais déjà là, est-ce que lui avait réussi, grâce à Facebook Ads, à vendre son offre à 2000 euros grâce à des campagnes qui étaient dédiées?
Alors, il a réussi à en vendre, mais de manière assez anecdotique, où finalement, c'était difficilement prévisible et du coup, difficilement scalable.
Ah parce ouais, c'est que certain, ouais.
On ne pouvait pas se dire, on va réitérer cette opération, mais cette fois-ci, on va faire x2 sur le budget et a priori, on aura de la croissance supérieure la prochaine fois. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une stratégie quand on est arrivé avec le client pour proposer quelque chose de nouveau, finalement. Là, c'est peut-être là où on va en parler, mais on a...
Vas-y, je te laisse y aller. Qu'est-ce que tu as fait, du coup?
On a fait quelque chose qui fonctionne bien chez les solopreneurs, et qui est un challenge.
Oh.
On a mis en place un challenge sur 5 jours pour se lancer en tant que freelance. Donc, le concept est très simple, hein. C'est un défi avec un live par jour pendant 5 jours pour devenir freelance. Défi, un challenge gratuit, hein, je le mentionne quand même, c'est vraiment un challenge gratuit ici. Donc à la fin du défi, le client propose l'offre à étiquette d'accompagnement pour aller plus loin et devenir finalement un freelance à succès. Donc évidemment là on est sur une valeur ajoutée qui est bien plus haute que le webinar parce que il y a un live chaque jour où il y a beaucoup de valeur délivrée par mon client. Et beaucoup d'exemples aussi de personnes qui sont passées par lui, qui ont réussi. Et finalement, toutes les personnes qui suivent ces 5 jours, à la fin, ils commencent à être assez matures. Il y a une relation qui s'est créée. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de les passer sur du high ticket à ce moment-là que sur un simple lead magnet ou sur un webinar qui va durer une heure.
Je fais juste une parenthèse pour les personnes qui connaissent pas du tout le challenge. Le challenge, c'est un tunnel de vente qui marche, comme tu l'as dit, très bien avec les infopreneurs. À l'inverse d'un lead magnet où la personne te donne son adresse mail pour obtenir un contenu gratuit de ta part, qui peut être un PDF, qui peut être un webinaire, qui peut être peu importe. Le challenge, ça va durer plusieurs jours. C'est un peu l'une des caractéristiques du challenge. C'est-à-dire, ça dure plusieurs jours. L'infopreneur va être en live avec les membres, avec ceux qui participent. Et l'idée, c'est de leur faire atteindre en X jours un état ou un objectif concret. Et parce que généralement, ils atteignent cet objectif concret, ils sont satisfaits de ta méthode, ils sont satisfaits de ton service, ils ont confiance en toi. Et du coup, on observe forcément qu'il y a un plus haut taux de conversion en termes d'achat à la fin, même sur des offres high ticket qui peuvent taper les 1000, 2000, 3000, etc. Milliers d'euros sur... à l'achat du coup, donc c'était juste pour expliquer un peu pour les personnes qui connaissaient pas. Je ferme la parenthèse, je te redonne la parole.
Et du coup, en fait, cette opération, on l'a menée d'un point de vue publicitaire, hein. Je passe tout l'aspect technique et emailing, on va dire, sur le tunnel de vente. Si je me concentre plutôt sur ce qui s'est passé sur Facebook Ads, on a mis en place quatre étapes, quatre phases. La première, finalement, elle était plutôt sur du test. Donc, avant de lancer la vraie campagne, on a lancé une pré-campagne avec un tunnel ISO qu'on allait faire avec un budget test. Et l'idée, là, ici, c'était de trouver des combinaisons gagnantes entre le meilleur hook, le meilleur titre, la meilleure vignette, la meilleure audience, parce que finalement, on voulait partir avec déjà une sécurité dans
le CPL, ouais.
Dans le CPL, dans ce qu'on allait faire pour pouvoir mettre le budget. Parce que finalement, un challenge, ça va être, faut compter peut-être 2 semaines avant le challenge, on va lancer les campagnes et on va dépenser potentiellement un budget sur des challenges entre 10 000 et 20 000 euros de budget média en 2 semaines. Donc, finalement, on a pas trop droit à l'erreur parce que après le challenge, c'est trop tard, quoi. Donc, cette phase de test avant, elle nous a rassurés en trouvant finalement des combinaisons gagnantes, en trouvant les meilleurs ads. Donc, c'est ce qu'on a fait avec une méthodologie de test bien orchestrée et on en parle souvent, en tout cas, chez J7. Donc, je vous invite aussi à revoir tous les podcasts. Mais en tout cas, voilà, de faire des tests qui nous apportent de la vraie valeur. La deuxième phase, c'était la phase d'acquisition pour s'inscrire au défi, où là, on a utilisé la meilleure audience. En l'occurrence, ici, c'était un lookalike 1% qui s'est dégagé dans nos tests avec les meilleures annonces. finalement, cette phase, elle a duré 2 semaines jusqu'au bout du défi, avec un budget global ici de 10 000 euros. Et l'objectif était d'arriver à un CPL de 4 euros. Donc, le CPL qui était ici de 4 euros était un objectif plus bas que les CPL qu'on avait pu avoir sur le webinar qui était de 6 euros. Donc, et du coup, un CPL plus, on va dire, avec un défi plus haut pour nous d'aller chercher un CPL plus bas, justement. Et donc ça, c'était la phase 2 vraiment d'acquisition, de maintenir ce CPL à 4 avec 10 000 euros de budget. La phase 3, elle, était de garder au chaud les inscrits du challenge. Donc on avait finalement une campagne de retargeting sur toutes les personnes qui s'inscrivaient pour notamment les inviter à rejoindre un groupe Facebook. Donc, on a cette phase 3. On voulait qu'une personne qui s'inscrit finalement 2 semaines avant le défi garde toujours la même envie pour le jour J. Et donc là, on n'était pas vraiment dans une logique d'avoir un coup par lead parce qu'en fait, c'était déjà des leads, mais dans une logique de garder tout le monde au chaud.
De fréquence, du coup.
De fréquence, en fait, qu'on soit toujours dans leur tête, même s'ils ont converti il y a 2 semaines. Pour que voilà la sauce monte un petit peu, qu'on les invite à rejoindre un groupe Facebook où là bah le client animait aussi ce groupe Facebook. Donc c'était aussi important dans cette phase, même si ça représente pas 50% du budget. Hein, attention, ça représente plutôt 5-10% du budget max hein, média de sur cette phase. Mais en tout cas, c'est important d'animer un petit peu la communauté, les personnes qui sont inscrites avec cette phase là. Donc c'était des publicités où finalement, on leur disait bah, merci d'avoir rejoint ce défi. On est très contents. Donc voilà, il y avait une vraie vidéo qui était destinée à ces personnes-là.
D'accord. OK. Ça, c'est la phase 3. Tu vas chercher de la fréquence, tu disais, mais ton objectif de publicité Facebook, c'est quoi? C'est trafic ou là, c'est juste purement du reach, enfin de la portée?
Alors, on avait un objectif qui était de rediriger les personnes vers le groupe Facebook. Alors, on peut pas le faire directement. On peut pas savoir qu'il y a tant de personnes qui ont rejoint le groupe Facebook. Il n'y a pas d'événement pour ça, malheureusement. Sauf de ma part, mais a priori.
Non, mais sûr.
Donc, du coup, on avait une landing page entre les deux où on avait un CTA qui permettait de renvoyer les personnes vers le groupe Facebook. Donc, finalement, on drivait cette campagne-là, malgré tout, au clic sur cette landing page qui redirigeait vers le groupe Facebook. Donc, pour être quand même sur une phase d'apprentissage un peu plus intéressante pour nous d'un point de vue Facebook et pas uniquement du reach, quoi.
D'accord, ok. Et ça, c'est la phase 3. Et du coup, phase 4,
La phase 4, qui était la dernière phase, qui était la phase de vente, où là, à la fin des 5 jours de défi, on avait vraiment une campagne 100% vente. C'était une vidéo qui présentait l'offre et qui invitait finalement tout le monde à se rediriger vers la page de vente avec le paiement qui était intégré directement pour l'offre high ticket de 2000 euros.
Ok. Et du coup, quels ont été tes résultats? Parce que j'ai envie de te demander, est-ce que tu as vu de l'attribution par rapport à des campagnes de lead ou des campagnes d'achat?
Oui, en fait, on a utilisé notamment des outils tierces pour bien mesurer l'attribution des campagnes, notamment Heroes, qui est
Ouais.
Et ça nous a permis notamment d'identifier le paid de l'organique, parce qu'il y avait aussi de l'animation côté organique, pour vraiment attribuer au paid des ventes, des campagnes. Et finalement, avec un budget global qui était, on arrivait à 15 000 euros de budget média, on a eu 3750 leads, donc ça nous faisait un CPL à 4 euros. Donc d'un point de vue objectif CPL, on est arrivé à nos objectifs. Et côté vente, on est arrivé à un RPL de 16 euros.
Ok, d'accord. Voilà. Donc ça te rapportait 3 fois. T'as eu un ROAS de 3, c'est ça?
4.
4, pardon.
Ouais.
Évidemment. Ouais, c'est 4, effectivement.
Là, tu mets le doute, mais oui, de 4. 4 euros de coût par lead et du coup 16 euros de revenus.
Ce qui est énorme, ce qui est très bien. Ouais.
Encore une fois, ROAS de 4 sur la partie Facebook payante, finalement, c'était... Alors, le ROAS global, si je prends l'organique, est plus gros. Ouais, on arrive à, me semble, on est plutôt sur un ROAS de notre client avait quand même une communauté intéressante aussi. Et je crois qu'au global, il arrive à un ROAS de 10, il me semble.
Ouais, mais voilà, ce qui est énorme.
Le reste, on va, on calcule nous vraiment ce qui est attribué à la publicité, évidemment.
Ok, d'accord. Je veux juste revenir sur les publicités parce que, enfin, t'as mentionné un point sur lequel je m'étais noté une question et puis après j'ai une question sur autre chose. Donc tu as 4 phases. Ta première phase, alors non, en gros, t'as dit que t'as lancé ta phase 2 à peu près 2 semaines avant le challenge. Donc la phase 2, c'est vraiment tu sais quelle est ta meilleure campagne, tu sais quelle est ta meilleure pub, tu lances. La phase 1, celle qui correspond vraiment au testing, peut-être avec moins de budget, tu la lances combien de temps avant?
Celle-là, on l'a lancée 2 à 3 semaines avant les 2 semaines. Donc quasiment un mois et demi
ouais.
avant le défi. On voulait pas que ça soit trop éloigné du défi.
Bah c'est certain. Ouais.
Pour avoir quand même un contexte, on va dire équivalent. Et on a fait attention à pas qu'il y ait de que ça soit dans une période où finalement on a lancé les tests avant Noël et puis on lance après Noël. Enfin, on a fait attention à ce que ça soit quand même des périodes qui peuvent être similaires pour que on ait quand même une bonne base. Et en fait, les leads qu'on a générés pendant la phase 1, on a quand même pu évidemment les utiliser pour les embarquer ensuite sur le défi. C'est juste que cette phase 1, finalement, on leur a indiqué de date du défi qui était pas forcément la même que lors de la phase 2 qui était notre vraie campagne, quoi.
D'accord. Et là vient ma seconde question. En termes de concept publicitaire, est-ce que tu as pu te baser sur l'apprentissage que tu avais fait du compte, c'est-à-dire décliner des concepts que tu avais sur tes webinaires, notamment pour le challenge, ou est-ce que tu t'es permis de partir sur des trucs complètement différents? Et ça a été quoi, du coup, le concept publicitaire un peu gagnant? Parce que je prends pour exemple un J7 Media, parce que nous on fait des challenges. J'utilise beaucoup les apprentissages que j'ai d'autres funnels, comme des webinaires, pour mes propres challenges. Parce que effectivement, on est sur cette problématique de, on lance des campagnes, mais qui ont des dates de fin. Donc c'est un peu complexe de vraiment tester de manière un peu evergreen, c'est-à-dire toute l'année là-dessus. Et toi, quelle a été ton approche là-dessus et quel a été ton résultat? C'est-à-dire, tu t'en es sorti avec quel concept publicitaire à la fin?
Effectivement, il y avait beaucoup de tests qui étaient là auparavant, qui avaient finalement, c'était pas des ads qu'on aurait pu réutiliser comme tels pour nos campagnes. Donc on a dû quand même, nous, de repartir de zéro à ce niveau-là. Par contre, il y a des audiences qui fonctionnaient bien. Typiquement, l'audience lookalike qui était finalement une audience qui était peut-être la meilleure, nous, sur cette campagne de challenge, c'était déjà une audience qui fonctionnait bien avant. Donc on a pu vraiment réutiliser plutôt les audiences qui étaient là, mais derrière, finalement, il n'y avait pas encore le bon message, le bon tunnel à proposer à cette audience-là. Et étonnamment, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que souvent sur ce type de marché des solopreneurs, on a souvent des vidéos, en fait, qui ressortent le mieux. Et en fait, là, c'est une image qui est.
D'accord. Ça allait être ma question,
ouais,
du coup.
Ouais, c'est une image qui est ressortie. Donc à chaque fois, sur la campagne, on a pas plus de 4 visuels différents, ads différentes sur la campagne de Lookalike, par exemple. Et on va avoir 3 visuels fixes et une vidéo. Et finalement, à chaque fois, là, dans notre cas, c'est vraiment une image qui ressort. Et c'est un peu contre intuitif parce que on voit beaucoup les vidéos qui fonctionnent le mieux, surtout pour les solopreneurs qui se présentent, qui parlent, c'est dynamique, etc. Et globalement, on voit beaucoup les vidéos sur Facebook Ads qui fonctionnent. Et là, c'est une image. Donc, c'est aussi pour se dire que faut jamais trop partir avec des a priori dans le sens ah ben ça, c'est ça qui marche. On va faire que ça. Pas besoin de faire d'image fixe. En fait, faut toujours se remettre en question et se dire on va le tester et finalement que le meilleur gagne. Donc là, c'est une image fixe où on va voir le client. Donc c'est une photo du client qui se casse les mains écartées comme ça, comme s'il tenait quelque chose. Et entre les deux, c'est écrit en gros challenge devenir freelance.
D'accord, ok.
Voilà. Okay. En fait, on essaie d'interpeller le persona qu'on souhaite avoir tout de suite. Et surtout, vu que le challenge, le défi gratuit est déjà fort, on veut pas trop en dire, quoi. On veut tout de suite que la personne, qu'on interpelle tout de suite la personne et elle cliquer finalement sur notre landing page. La landing page, pour le coup, elle, il y avait une copie qui était assez longue avec des vidéos, des témoignages clients, donc qui allait faire vraiment son rôle pour avoir des leads qualifiés. Et mais nous, on était assez direct sur la copie du visuel, quelque chose de très simple. Et après, dans la copie plutôt du message publicitaire, Là, ce qui fonctionnait bien, c'était quand on donnait un peu de perspective sur le défi. Du type, bah voilà, le défi, ça va se passer comme ça. Tel jour, il y aura ça. Tel jour, on va apprendre ça. Tel jour, on va apprendre ça. Du coup, ça donnait plus de contexte à la personne si elle rejoignait le défi, comment ça allait se passer. Donc, ouais, ça, c'est ce qui a le mieux fonctionné, en tout cas pour nous ici.
Et du coup, mission réussie par rapport à votre challenge. C'est quoi la suite avec cet annonceur? Dans le sens, vous allez continuer à faire de l'acquisition evergreen pour en relancer un challenge peut-être dans un mois ou deux mois. C'est quoi la stratégie? C'est quoi ce que vous allez tester ensuite?
Alors, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'on a, alors nous, on a plusieurs clients qui font du challenge. Il y a quand même quelque chose, c'est que le challenge, ça peut être assez énergivore en termes de déploiement. Alors, pas tant pour nous, hein, mais surtout pour le client, parce que c'est un live par jour pendant 5 jours. Il y a de la préparation avant, pendant, et après, il y a cette phase de vente où il faut être quand même assez dynamique. Donc, finalement, le faire tous les mois, c'est pas si simple. C'est dur de tenir le rythme. On a des clients qui arrivent à tenir le rythme tous les 2 mois, par exemple. Là, avec ce client-là, enfin, dans notre exemple, on est plutôt à se dire, on va frapper fort 3 à 4 fois par an avec un challenge. Pas plus, du coup. Donc, on est plutôt sur un challenge tous les 3 mois, on va dire, les 3-4 mois. Et l'objectif, ça va être plutôt d'essayer de scaler les campagnes. Donc, au premier, on a mis 15 000. Le prochain, on va mettre 25, 30 000 euros de budget. Et finalement, de faire des gros coups à chaque fois plutôt que de répéter plein de fois le challenge, où à un moment donné, on a peur qu'on perde de l'énergie, en tout cas surtout pour le client, quoi. Et ça, c'est avec aussi la condition qu'on ait un coût par lead qui se maintient, et aussi de maintenir également notre revenu par lead sur la partie paid qui était de 16 euros, quoi. Donc vraiment, c'est ça l'objectif sur la partie challenge. Après, en parallèle, on va conserver quand même des campagnes evergreen sur du lead magnet. Alors, sur du lead magnet, pour le coup, on va arrêter les webinars, parce que finalement, ça fait presque un petit peu doublon avec le challenge. Ouais. Mais par contre, les lead magnet, même si les coûts par lead sont un peu élevés, on a pu voir quand même qu'il y a rapporté des leads qui étaient très qualifiés, parce que nos leads magnets étaient plutôt bien faits. Donc on va garder ça en fil rouge, et on va essayer de l'optimiser pour baisser le coût par lead. Mais c'est vraiment ça la stratégie. Ça va être evergreen avec le lead magnet et le challenge qui va être là 3 à 4 fois par an.
Si je dois faire une synthèse de ta situation, tu as eu un infopreneur qui avait 2 offres. Qui avait une offre à 300 euros qui était un peu le ticket d'entrée, et une offre à 2000 euros ou plus qui est là, c'est l'offre sur laquelle on fait plus de marge et sur laquelle on espère faire de la croissance. Cet annonceur, avant que tu arrives, faisait beaucoup du lead magnet. Il faisait quelques webinaires aussi de façon contextuelle, de façon sporadique dans l'année. Il avait du mal déjà à vendre son offre à 300 euros, donc il pensait pas offrir, enfin, il pensait pas vraiment tester sérieusement l'offre à 2000. Toi, tu arrives, tu commences à faire le tri dans tous les lead magnets, parce que certains te montrent de très très beaux CPL, mais en fait, tu te rends compte que le revenu derrière est pas bon, donc tu fais plutôt ton choix vis-à-vis du RPL, ce qui est une excellente décision, et tu l'orientes vers le challenge qui est le tunnel de vente ultime, je dirais, pour vendre des offres high ticket, en l'occurrence lui son offre numéro 2, là, celle à 2000 euros. Vous lancez ça en 4 phases, il y a la phase de testing avec moins de budget, là c'est juste histoire de voir c'est quoi le meilleur concept publicitaire? C'est quoi la meilleure audience? Dès qu'on le sait, hop, 2 semaines avant le challenge, on lance nos vraies campagnes avec une dizaine de milliers d'euros de budget là-dessus. Tu fais tes tests. En parallèle, il y a un budget aussi pour maintenir les gens au chaud. C'est-à-dire que tous ceux qui se sont inscrits, tu veux être certain qu'ils arrivent aussi sur le groupe Facebook, parce que c'est là que tout se passe. C'est là qu'il y a les lives, c'est là qu'il y a les devoirs, c'est là qu'il y a les cadeaux qui sont postés notamment. Et ensuite, tu as une campagne d'achat qui va venir recibler toutes les personnes qui ont participé au challenge pour les relancer sur l'offre. Et ça te permet à la fin d'avoir un retour sur investissement pour Facebook, en tout cas, de 4. Donc, 1 dollar, 1 euro dépensé sur Facebook te rend 4 euros. Et globalement, parce qu'il y a de l'organique et il y a aussi une autre plateforme, on n'en a pas parlé là tout de suite, mais il y a une autre plateforme. Et globalement, tu arrives à un ROAS de 10, ce qui est un énorme succès, je suppose, pour ton annonceur. Et là, maintenant, du coup, tu sais que ça, ce challenge, tu vas le garder peut-être 3 à 4 fois par an, histoire de convertir un maximum de monde. Mais en parallèle, entre ces moments-là, tu continues à garder des lead magnets et pas des webinaires, parce que webinaires et challenge font un peu doublon, et ça te permet au moins de continuer à acquérir des leads pour tes challenges, parce que les challenges, on le sait que ça marche à la fois sur audience chaude et audience froide en termes de conversion.
Exactement. Okay. Très bien résumé.
Ouais, bah, parfait. Moi, j'ai pris des notes, hein, c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais le regard un peu baissé. Très bien. Est-ce que tu as on va approcher de la fin de cet épisode. Est-ce que tu as des derniers conseils à nous donner à ce sujet ou des points que tu aimerais de manière générale à nous donner sur Facebook Ads?
C'est vrai que le challenge, nous on le recommande plutôt bien sur tous les solopreneurs aujourd'hui. C'est vrai que tous les solopreneurs vont avoir plutôt un high ticket à un moment donné qui va être de 2000, 3000, 4000 euros. Et finalement, c'est celui-ci qu'on souhaite vendre. C'est vrai que le challenge, c'est pour moi le meilleur moyen de faire un chiffre d'affaires important tout de suite. C'est pas rare que nos clients vont réaliser 40, 50, 150, voire même plus de CA sur un challenge. Donc c'est vrai que c'est quand même des montants importants. Et du coup, je l'encourage
clairement.
Énormément, évidemment. Et l'autre chose qui est important aussi, c'est cette phase de test avant le challenge. Parce que finalement, on pourrait se dire, je prépare mes campagnes et puis je vais tester sur les premiers jours de mes deux semaines. Mais deux semaines, ça passe très, très vite. Et si on se plante à un moment donné, on va perdre du temps. Et là, il y a une date butoir avec le challenge. Faut vraiment miser sur toute notre connaissance. Et l'autre, peut-être dernière reco que je pourrais faire sur ce type de projet, c'est en fonction de votre business, parce que tous les business ne peuvent pas aller ailleurs que Facebook Ads, mais nous, en l'occurrence, on avait fait aussi Google Ads.
D'accord, ouais.
Et plus précisément YouTube Ads. Et pour le coup, ça avait aussi bien marché sur YouTube Ads. Donc, ça permet aussi de répartir un petit peu les risques et de pouvoir scaler avec deux plateformes sans trop prendre de risques aussi sur une. Donc ça aussi, c'était quand même un bon point sur l'opération.
D'accord. Parce que chez Social Desk, vous gérez aussi des campagnes de Google Ads, c'est ça?
C'est ça. On va toute la partie Social Ads, mais aussi YouTube, Google Ads, effectivement.
Parfait. Et comment on peut te retrouver? Je mettrai en lien tes différents réseaux et notamment l'URL de ton agence, mais comment on peut te retrouver? Comment on peut échanger avec toi si on a des besoins?
Ouais, bien sûr. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Évidemment, j'essaie d'être assez fréquent sur du partage de contenu. YouTube aussi, avec la chaîne. On partage beaucoup de tutos.
Que je vais mettre aussi en note dans l'émission, bien sûr.
Puis après, notre site socialdesk, évidemment, .fr pour nous contacter et voir un petit peu ce qu'on fait dans le détail, quoi.
Parfait. OK. Écoute, merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous.
Merci.
Un plaisir. Et à tous, plaisir partagé toujours quand c'est des bonnes petites études de cas. Moi, je suis très friand. Et puis, à tous qui nous écoutez, merci de nous suivre sur nos différents podcasts. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à nous mettre une petite note, un petit commentaire. Ça nous aide évidemment pour le référencement. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde. Ciao.
The number one deal is Facebook ads. They are underpriced.
Senator, we run ads.